Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Maxit, bonsoir. Bonsoir le public, bonsoir. Merci d'être avec nous, chers amis. Bienvenue dans cette émission, on va parler de politique. Bienvenue si vous nous regardez sur Twitch, bonsoir le chat, vous êtes avec nous. Bonsoir, bonjour si vous nous regardez sur YouTube, bonjour, bonsoir si vous nous écoutez en podcast. Très content de vous retrouver dans l'émission Backseat. Et cette semaine, comme chaque semaine, on prévoit d'avoir sur le plateau des invités de très grande qualité, des créateurs et des créatrices de contenu sur Internet qui viennent nous parler d'une cause qui leur tient à cœur. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Léna de la chaîne Scarabette.
Bonjour.
Et Valentine de la chaîne Science de Comptoir. Et on a un petit jingle. Et on n'a pas de petit jingle. Ça va arriver. Merci d'être avec nous.
Si tu veux, le jingle.
Ah, vas-y, fais-le.
Jingle.
C'était incroyable.
Trop bien.
C'était absolument incroyable. Non, je me suis trompé. Excuse-moi, la régie, il n'y a pas de jingle. C'était pas dans mon doc. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux donc vidéastes sur YouTube, vous êtes des créatrices de contenu et vous êtes un petit peu spécialisées dans les questions de science, si on peut dire. Toi, Valentine, tu es spécialisée dans des sujets très variés. Donc en fait, t'as pas de spécialité particulière, c'est, je suis en train de me rendre compte de l'absurdité de ma phrase.
Je suis spécialiste en tout.
Tu fais du lait dans le léchage de cailloux, par exemple.
Oui.
On en parlera.
Ouais.
On y reviendra. Ouais. Tu parles aussi du pillage des océans, tu parles d'astrologie aussi, ouais. Tu as fait des vidéos absolument passionnantes, merci d'être avec nous. Et toi Léna, tu es un peu plus, enfin t'es autodidacte.
Spécialisée.
Toi t'es plus spécialisée, oui c'est ça, tu parles d'insectes.
C'est ça, moi je fais de l'entomologie, donc c'est vraiment l'étude des insectes.
Redis le mot barbare.
Entomologie.
C'est l'entomologie, l'étude des insectes.
C'est ça.
Eh ben je me coucherai encore moins con. Ok, trop bien. Et donc tu fais ça, ça fait combien de temps que toi tu l'as fait ?
Moi ça fait depuis 2018 que je fais vraiment de la vulgarisation. J'ai commencé les réseaux sociaux de manière vraiment plus assidue il y a un an et demi à peu près.
Ok, d'accord.
C'est ça.
Et t'es autodidacte, parce que toi t'as une formation dans le secteur de l'audiovisuel si je dis pas de conneries.
Alors en fait je suis pas complètement autodidacte, je me suis formée dans l'audiovisuel pour commencer,
ouais.
Et après en fait je me suis formée en entomologie, donc j'ai vraiment les deux
formations.
Ah
t'as une formation en entomologie,
c'est
okay.
Ça, et que j'ai voulu fusionner parce que c'était vraiment le partage avec le public qui m'intéressait le plus en fait.
T'as bien raison. Toi Valentine, toi t'as une formation de géologie.
Oui.
T'as une formation de géologie, t'as été journaliste scientifique pour Science et Avenir.
Oui.
C'est ça ? À quel moment t'as fait le shift pour venir sur les internets ?
J'ai jamais vraiment fait le shift, j'ai fait les deux en parallèle en fait.
Ah,
et
okay.
J'ai lancé ma chaîne pendant mon master en journalisme scientifique.
D'accord.
Et voilà, et après mon contrat pour Sciences et Avenir, je me suis dit, allez, je me lance à temps plein, j'ai envie d'être chômeuse.
Let's go la YouTube money.
Yes.
Donc ouais, toi Léna, tu le dis, toi tu parles d'entomologie culturelle aussi, t'avais décrit ça.
C'est ça. En fait,
c'est quoi le caractère culturel de l'entomologie du coup?
En fait, l'entomologie culturelle, c'est ma spécialité, c'est l'étude des insectes à travers l'histoire et dans les différentes cultures. C'est hyper passionnant.
Mais non, mais c'est trop bien.
Parce qu'en fait, du coup, on est entouré d'insectes tout le temps. Sur quasiment tous les continents, on va trouver des insectes. Et du coup, en fait, c'est l'étude de cette place que va prendre l'insecte dans la vie humaine et surtout à travers les différentes cultures. Parce que la menthe religieuse, elle est mal vue dans un pays et dans un autre, c'est elle qui a créé la terre. Quoi.
Il y a
vraiment un énorme tremplin.
Il y a des pays où on... Parce que la menthe religieuse, j'ai l'impression que c'est plutôt positif chez nous en Europe, non?
Oui, alors en Europe, c'est plutôt positif. En France, on dit même qu'elle guide les pèlerins.
Ouais.
Parce que du coup, il y a cette manière de religion où on suit normalement les mains de la menthe pour trouver son chemin. Tandis qu'aux États-Unis, par exemple, on dit qu'elle crache dans l'œil des hommes pour les rendre aveugles. Il y a un petit tweet quand même.
Je savais pas du tout. Putain, c'est hyper intéressant. Ouais. Ok, t'as fait des docus aussi d'ailleurs.
C'est ça.
T'as fait des docus, tu fais pas que des vidéos YouTube. T'as fait quoi comme docu ?
Alors, j'ai fait des docus sur le Bombyx mori, c'est le ver à soie, qui c'est hyper passionnant. Il y a plein de choses trop chouettes avec cet insecte, parce que c'est devenu un animal domestique à part entière. Mmh. C'est plus du tout un animal qu'on peut trouver dans la vie sauvage. Et y a un lien très particulier qui se crée avec ceux qui font de la sériculture, c'est le mot pour dire qu'on élève des vers à soie. Et du coup, sur ça, j'ai fait aussi les insectes dans la place dans l'art. Parce que pareil, il y a une grosse symbolique autour des insectes dans l'art et du coup à travers certaines époques. Et du coup, c'est.
C'est trop bien. On a quelques extraits de ta chaîne qu'on va regarder tout de suite. On va regarder les extraits et on continue à en parler. C'est l'occasion pour vous de découvrir cette chaîne. Scarabette, abonnez-vous. On regarde.
J'ai tourné une vidéo avec Choco. Si vous l'avez vu, vous reconnaissez sûrement Petit Pied. Et si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous voulez en adopter un.
Ça, c'est aubergine et ça, c'est courgette. Un joli début de ratatouille qui, j'espère, va me faire beaucoup de petits bébés carottes, tomates et oignons.
Tu te dis peut-être que j'ai complètement perdu la boule, surtout si tu arrives par hasard et que tu ne me connais pas.
Mais non, ce sont bien mes animaux de compagnie.
Bon allez, on revient à petit pied. C'est un mille-pattes, qui d'ailleurs n'a pas vraiment 1000 pattes, mais plutôt environ maximum 750. Et ce qui est rigolo avec eux, c'est que quand ils se sentent en danger, hop, ils ont une technique de ouf. Ils se roulent en boule la tête la première. Si t'aimes les animaux stylés, qui battent des records du monde, est-ce qu'il faut prendre un Iul ? Oui madame !
Voilà, c'est la chaîne Scarabette que je vous invite à découvrir, à vous abonner. Première question, comment vont Petit Pied, Aubergine et Courgette ?
Ils vont bien, Aubergine a pondu, et du coup, Courgette a pondu, c'est la femelle.
C'est Aubergine le papa ?
C'est Aubergine le papa. Malheureusement, le papa n'est plus parmi nous. Ah. Il s'est un peu trop épuisé à force de reproduction, mais bon.
RIP.
Courgette, elle va très bien.
Bon, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut s'intéresser aux insectes ?
Les insectes, c'est vraiment la base de tout, en fait. C'est la base de la vie.
Ah ouais ?
C'est eux à la base de la chaîne alimentaire. S'il n'y a pas d'insectes, on n'aura pas à manger, on n'aura pas de pollinisation. Donc c'est hyper important de base. Et ensuite, je trouve que c'est des animaux qui sont sous-cotés. Il y en a qui sont incroyables, avec des particularités hyper étranges, des liens avec nous qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, on va parler des punaises de lit.
Tout à l'heure, on va en parler, ouais.
Ça existe depuis 4000 ans.
Ouais. La
trace la plus ancienne qu'on a avec eux, c'est 4000 ans. Donc, c'est énorme. Cléopâtre avait des punaises de lit. Mais on ne se dit pas, ouais, c'est ouf, mon ancêtre hyper lointain de l'Antiquité, il avait le même problème que moi. Ben, si. Pareil, les moustiques aussi, c'était un problème. Ouais. Et on lit, par exemple, chez les grands philosophes antiques, des manières de combattre les moustiques. Et notamment, ils faisaient exprès de construire les villes éloignées des marécages. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qu'on...
Non, mais c'est hyper intéressant.
Pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est des animaux qui sont un peu sous-cotés. En plus, il y en a, ils sont vraiment très beaux.
Non, mais c'est vrai.
Le panda, c'est joli, mais pardon, mais Courgette, mais
elle est incroyable, Courgette, on t'aime. Non, mais carrément. Mais c'est hyper intéressant. Tu saurais l'expliquer, cette méfiance vis-à-vis des insectes ? Évidemment, il y a eu des messages de dégoût dans le chat. Je m'y attendais. Ce que je comprends tout à fait, il vient d'où ce dégoût, les insectes, les petites pattes, je sais pas, on l'a exploré ça ?
Il y a plusieurs théories. Il y en a une qui dit qu'on a une peur qui est ancrée génétiquement. Alors, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur cette théorie, mais en tout cas, il y a des études qui montrent qu'on aurait des peurs, en fait, parce que du coup, les insectes posaient plus de problèmes sanitaires, notamment à l'époque.
Ah, le truc qui vient de l'évolution, c'est ça que tu...
C'est ça, du coup, on aurait développé une espèce de peur ancrée génétiquement. Après, il y a l'autre qui est la peur sociale, qui est transmise de génération en génération.
Oui, ça, oui.
Celle-là, elle est acceptée comme théorie. Et ensuite, il y a tout un truc où ils viennent... nous déranger dans notre confort parfois. Surtout les insectes tels les mouches, les moustiques, les cafards, les choses comme ça, ils viennent nous rappeler un peu qu'on est des animaux, qu'on vit dans la nature. Et ça, parfois, l'être humain moderne et occidental a du mal à l'accepter. Mais c'est une vision qui est très occidentale, encore une fois. Mmh. Dans certains pays, on est beaucoup plus à même de vivre avec ces insectes et on les considère moins comme une nuisance. Et voilà, en fait, ça dépend vraiment beaucoup de là où on se place dans le monde.
Et toi, du coup, Valentine, tu as une chaîne, je le disais, qui s'appelle Science de comptoir.
Oui.
Là aussi, on a des extraits, on vous les balance tout de suite et on en parle.
Ouh là là. Vous pouvez miner les océans pour sauver la planète et se faire plein de brousouf au passage. Ah non, c'est pas ça. Vous avez peut-être entendu parler du deep sea mining.
Aujourd'hui, les scientifiques savent bien que non planter des forêts n'est pas la solution miracle pour lutter contre le changement climatique. C'est un des outils disponibles parmi un arsenal assez vaste d'initiatives de conservation de la nature. Et en plus, ça coûte vachement cher pour un taux de réussite pas joujou.
Quand je dis aux gens que j'ai fait des études de géologie, la première chose qu'ils me demandent, c'est qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Et la deuxième, c'est est-ce que les géologues lèchent vraiment des cailloux ? Alors non seulement oui, pour la petite histoire, on a même trouvé de la montmorillonite sur Mars. Donc si jamais vous y allez, vous pouvez très bien lécher le sol et si ça reste collé à votre langue, et ben c'est que c'est de la montmorillonite. Ou alors c'est que vous avez enlevé votre combinaison et que du coup votre tête a explosé, elle est allée rouler par terre et elle est restée collée au sol.
Du coup, est-ce que tu lèches des cailloux, Valentine ?
Bien sûr.
Mais évidemment.
Et pas plus tard qu'il y a une semaine.
D'où tu viens, toi, du coup, en l'occurrence ?
De quelle planète ou
De quelle planète Où est-ce que comment est-ce que tu en es venu ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu viens du journaliste, tu as fait des études de journaliste. Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser aux enjeux scientifiques ? Tu as parlé même de formation en journalisme scientifique.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui t'a conduit vers ça ?
J'ai toujours beaucoup aimé les sciences et un peu le côté artistique de la chose. Et du coup, je cherche un métier qui soit à la jointure des deux. C'est pas le bon terme, mais on dira que voilà.
On l'a.
Voilà, c'est mon côté scientifique. Et du coup, c'est bien, parce que c'est bien la science, c'est une manière de voir le monde.
Mais ouais, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Tu l'abordes avec humour, la science.
J'essaye.
Est-ce que, pour toi, c'est le truc le plus efficace ? Est-ce que ça a des limites ?
Le plus efficace, je sais pas, ça dépend du public, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mmh. Moi, je suis clairement dans la vibe divertissement et non pas dans la vibe éducation. Enfin, il y a un peu les deux. Mais ouais, je sais pas, juste naturellement, je suis du genre à faire des blagues et à pas me prendre au sérieux, donc juste à coller bien, quoi.
Tu bosses aussi pour Arte, avec un projet qui s'appelle Scope.
Tout à fait.
Tu nous en parles un peu ?
Oui, oui, oui. C'est une émission qu'on fait en live sur Twitch, sur le Twitch d'Arte, donc arte.tv, FR, je sais plus, bref.
RP.tv,
donc,
ouais,
voilà,
je
ça.
Crois, oui.
Et donc, on fait des émissions thématiques sur les sciences, et il y en a une qui arrive très bientôt, la semaine prochaine, le 13, sur un sujet que je ne vous dévoilerai pas, les jeux vidéo.
Merci Valentine. Bah écoute, on a hâte de la regarder. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat comment s'appelle sa chaîne. Sa chaîne s'appelle Science de Comptoir. N'hésitez surtout pas à aller la regarder. Léna, ta chaîne s'appelle Scarabette. Est-ce qu'on peut parler deux minutes, puisqu'on est entre nous, de ce phénomène de la vulga scientifique sur YouTube? C'est un truc, j'ai l'impression que c'est historique sur YouTube. J'ai des souvenirs de les premières vagues de vulgarisateurs scientifiques qui ont porté la plateforme avec eux. Il y avait l'humour. Et ça, on s'en souvient, les Squeezie, les Cypriens, etc. Mais très rapidement, il y a eu Nota Bene, il y a eu Y Penser, il y a eu Science Étonnante, et puis, enfin, il y a toute une génération. Là, j'ai cité que des mecs, mais en fait, il y a aussi plein de nanas. Comment ça se fait que ça marche aussi bien? Comment ça se fait qu'on regarde jusqu'à 2h du matin des vidéos sur des sujets qu'on savait même pas que ça existait 2h avant?
Bah, parce qu'on a envie de s'instruire. Je sais pas.
Ouais.
C'est cool.
Ouais.
C'est...
Oui. Non, vas-y. Excuse-moi.
Non, toi, vas-y. Non, toi, vas-y.
Non, toi. j'ai l'impression aussi qu'on a grandi avec C'est pas sorcier, qu'on a quand même été vite mis dans des programmes. Enfin, là, je parle de ma génération. C'est pas sorcier, ça commence à vieillir. Mais on a vachement eu quand même ce truc de quand on est enfant d'essayer d'apprendre en s'amusant. Et je pense que ça répondait peut-être à cette demande d'avoir un truc un peu plus adulte, mais sur YouTube. Je sais pas.
Non, oui, c'est vrai.
On a grandi là-dedans et en plus, pardon, je.
Non, vas-y.
je suis horrible.
Non, mais...
En plus, on n'a pas l'équivalent à la télé. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une case vacante à la télé la science, même s'il y a des tentatives à droite à gauche. Et du coup, YouTube était là pour répondre à cette demande.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce que c'est pas un peu en train de crever la vulga sur YouTube? Moi, j'ai pas du tout l'impression. Hein. Enfin, pardon, mais.
J'ai l'impression que ça revient.
Mais j'ai même l'impression que ça marche du feu de Dieu. Enfin.
Ouais.
Alors que ça revient peut-être, oui, d'ailleurs, peut-être qu'il y a eu un ventre mou.
J'ai l'impression qu'il y a eu un ventre mou et que d'un coup, là, ça commence à revenir l'engouement, en tout cas, pour les chaînes éducation.
Les chaînes vulga aussi, dans ce côté juste simplement découverte. Enfin, tu vois, le carton, par exemple, de Villebrequin. Ils réussissent à intéresser à la bagnole des gens comme moi. C'est une forme de vulga. Ils rentrent pas. Si je dis ça, ils nous ont toujours pas expliqué ce que c'était que le différentiel. Mais je sais pas. Oui, il y a quand même un peu de vulgarisation. Il y a plus un peu d'explication. Et non, j'ai vraiment pas l'impression. Je sais pas dans le chat. Vous me dites. Hein. Twitch monte pas mal en vulgarisation scientifique. Ah ouais? Non, je sais pas. Il y a de la vulga scientifique sur YouTube. J'en vois pas.
Tu connais Scope?
Oui, maintenant que tu le dis. Non, mais oui, Arte avec Scope et avec d'autres programmes sur Twitch peut-être, mais d'autres, je sais pas.
En même temps, si
je dis ça, non, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, il y a les artisans qui nous montrent leur artisanat, les boulangers, les luthiers.
Même, il y a tout un collectif qui s'est monté sur Twitch qui s'appelle POC Science. Tout ce qu'on prend et compagnie.
Il y a le CNES, effectivement, qui font plein de trucs aussi quand il y a des lancements d'Ariane, etc. T'as raison, maintenant que tu le dis. Micote qui fait de la vulga de fête. Non, complètement, c'est juste que j'y pensais pas, mais en fait, il y en a plein. Puis à moi, je fais des vulgarisations sur de la science politique, mais oui, de fait, oui, carrément, de fait.
Je me dis aussi qu'il y a un petit truc où on est vite happé par l'humour ou par la vulgarisation et la manière de parler de certaines sciences et tout, par des petites phrases qui fait lécher les cailloux, par exemple. Oui. Clairement, moi, je pense pas forcément à regarder des vidéos sur la géologie, mais quelqu'un qui lèche les cailloux, oui. Il y a un truc que je sais pas, ça m'attire, et je vais aller voir. Et du coup, j'ai l'impression de me faire happer. Pareil, Villebrequin pour les voitures. Personnellement, je m'intéresse pas trop aux voitures, mais je regarde les vidéos de Villebrequin. Il y a designer automobile aussi qui fait des super vidéos sur les voitures et sur les designs des voitures. Et moi, j'en ai rien à faire, mais je trouve ça super intéressant.
Comme toi, et c'est ce que j'ai toujours aimé dans la vulga sur YouTube, c'est qu'ils arrivent à me fasciner, à me captiver sur des. Enfin, vous arrivez, vous aussi, toutes les deux, à me captiver sur des sujets. Encore une fois, 100 minutes avant, je savais même pas que le sujet existait, quoi. Et du coup, c'est ça qui est cool. Mais ça montre, ouais, effectivement, quelque chose sur la curiosité. Je sais pas, il y a une forme de. Alors, de mon côté, je politise tout, mais. Ça dit peut-être quelque chose de la volonté d'avoir des yeux ouverts sur le monde, de comprendre comment il fonctionne, de s'intéresser, de s'interroger. Je sais pas, cette idée que les internautes sont des espèces de moutons qui regardent que leur nombril et leurs pieds et tout, preuve, en fait, on passe tellement d'heures à regarder des trucs sur des sujets qu'on connaît pas. Je sais pas, on tombe dans des rabbit holes pendant des heures et...
Bon, on avait le cliché avant, je trouve, du geek qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre, alors qu'en fait,
et
on se rend compte,
c'est ça.
Alors que, ben non, c'est des gens qui sont hyper, au contraire, du coup, Internet donne accès à plein de cultures différentes et qui, du coup, on peut connaître pourquoi est-ce qu'on lâche des cailloux et le design des voitures.
Il y a PMF qui dit dans le chat sur le système éducatif. Ouais, mais alors là, attention, faut pas opposer les deux. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le vulgarisateur n'est pas le concurrent du prof. C'est pas du tout le même job.
Absolument pas. C'est une aide à la limite, mais non, on remplace pas les profs. Ne serait-ce que parce que notre public est content de venir nous voir.
Voilà, c'est tout. Bonne rentrée les scolaire les profs. Hein.
J'embrasse ma cousine qui est prof.
Non, en plus il y en a plein qui sont profs et qui font de la vulga aussi. Donc non, c'est un support différent, c'est un contenu différent, c'est pas tout à fait la même chose.
Ouais, et puis nous on n'a pas le temps de creuser aussi. On va pas donner un cours de biologie pure parce qu'on n'a pas le temps dans une vidéo de 10 minutes. Ça remplace pas un cours de 50 minutes sur les insectes et leur comportement ou leur biologie, c'est impossible. Quoi.
Mais c'est même d'un certain point de vue, notre rôle à nous, les vulgarisateurs, c'est de générer de la curiosité chez les gens qui regardent pour que le lendemain en cours, il lève la main et il pose une question au prof parce que je sais pas, parce qu'on aura éveillé sa curiosité, un truc comme ça. Ça m'est déjà arrivé hein, que des profs témoignent en disant « Putain, j'ai un lycéen, il est venu me voir, il m'a parlé du fait majoritaire et du 49-3. Je savais pas quoi lui répondre, apparemment il a vu une de tes vidéos, je suis largué, etc. » Et c'était super sympa de la part du prof de me dire « Putain, t'as réussi à l'intéresser sur un truc de barge. » Et donc tant mieux en fait. Bon courage les profs, hein. En vrai, gros big up à vous. En plus, vous en prenez plein la gueule, c'est vraiment pas facile. Mais voilà, en plus, dans le chat, là, vous êtes tous depuis tout à l'heure à vous partager des chaînes de vulgarisation qui existent sur Twitch ou sur YouTube. Et c'est aussi ce qui est cool dans la vulga. J'ai l'impression d'avoir plus de facilité à dire à mes potes « Oh, j'ai découvert la chaîne, tu connais la nouvelle chaîne ?» Et j'ai plus souvent l'habitude de le faire ça sur de la vulga que sur d'autres trucs, sur l'humour ou sur des centres d'intérêt de geek que je peux avoir par ailleurs. Donc ouais, non, c'est cool. Est-ce que vous pensez que l'avenir de la vulgarisation est sur YouTube ? Est-ce que vous pensez que les vieux médias sont morts ? Comment vous voyez ça ?
Les vieux médias, je ne saurais pas dire, mais je pense que l'avenir n'est pas que sur YouTube, il est un peu partout. Là, il y a un peu une explosion des contenus éducatifs aussi sur TikTok, sur Instagram, enfin les formats courts. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire là-dedans, mais encore une fois, c'est vraiment juste pour allumer une étincelle. Quoi. On n'est pas là pour expliquer des trucs en 2-3 minutes, on peut rien dire. Quoi. Juste on balance une anecdote ou deux et puis voilà. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à faire sur plein de médias différents.
Ouais, non, mais carrément, je suis d'accord avec toi. C'est quoi, vous, les meilleurs retours que vous avez eus ? Parce que moi, j'ai raconté ce retour-là comme une anecdote, mais c'est quoi les trucs qui vous ont le plus marqué de retour de votre public ?
Moi, je crois que c'est les messages privés qui me disent « Ah, avant, j'écrasais les insectes parce que j'aimais pas ça, et maintenant, je les prends en photo et je les envoie
c'est trop cool.
Pour compte, quoi. »
Il y a des gens qui ont adopté des insectes après avoir vu tes vidéos ?
Oh, plein.
C'est trop bien.
Plein. Je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent « Ah, j'ai envie d'adopter des phasmes, comment je fais ? Ah, j'ai envie d'adopter des papillons, comment je fais ?» Enfin, plein de trucs comme ça. Et, du coup, ça, c'est cool.
C'est trop cool. Et toi, alors ?
Les miens veulent adopter du gneiss et c'est plus facile d'entretien.
C'est quoi gneiss pour ceux qui n'ont pas la ref ?
C'est un type de roche, voilà. Pas très intéressant.
Vous pouvez la lécher.
Voilà, on peut l'aller.
L'uranium, essayez d'éviter, mais le gneiss, vous pouvez y aller.
Non, mais oui, effectivement, le truc de base, c'est de dire je m'intéresse pas du tout aux cailloux, mais je regarde ta chaîne. Ça, c'est génial, parce que du coup, il y a des gens qui apprennent des trucs et tout. Enfin, ça me fascine. Des fois, je reçois pas mal de photos de gens qui me disent ça, c'est quoi comme caillou ? J'aime bien, mais mettez une échelle sur la photo, sinon c'est difficile.
Oui, s'il vous plaît, faites-le. Enfin, je dis ça, c'est pas pour moi, c'est pour Valentine. Hein. Je m'envoyais pas de photo de caillou. Je savais pas quoi vous dire. Il est droit ou il est de gauche ce caillou ? Je n'en sais rien. Vraiment bon. Scarabette et Sciences de Comptoir, on vous a invité toutes les deux pour parler d'un sujet qui est aussi un petit peu dans l'actu. Ce sont les punaises de lit, et on va en parler. Mais avant ça, ça va être introduit par une super séquence. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent.
Attendez, faut que je m'installe. Attends.
Installe-toi.
Après, j'ai un câble à brancher. Enfin, c'est le PowerPoint.
Installe-toi. Oui, alors ça, c'est grand changement de la saison 3. Ce n'est plus la régie qui passe les slides, c'est Vincent directement sur son ordi. Nous sommes des professionnels.
J'adore en fait, la rythmique, tout ça. J'ai ma tablette pour mon texte. Vraiment, j'ai l'impression d'être Hugo de la Crypte. Enfin, c'est incroyable. J'adore. Aujourd'hui, dans l'actualité. Bref.
Salut, c'est Hugo.
Vous allez bien ?
Ça va et toi Vincent, ça fait plaisir de te voir.
Bah ouais, mais en plus moi la semaine dernière, je suis désolé, j'étais pas là, j'avais le Covid.
C'est plus à la mode, mais ouais.
Et j'ai fait une décision qui a peut-être un peu choqué dans, je sais pas, les gens, mais j'ai décidé de m'isoler pour pas contaminer. Ah. Voilà, ça se fait encore, certains essayent, voilà.
Donc c'est vintage, j'aime bien.
N'hésitez pas. mais rassurez-vous, hein, aujourd'hui je reviens avec un gros sujet. Je vais parler d'un ce parasite qui nous agace tous. Alors, il y a lui aussi, mais je parlais d'un autre parasite. Hein. Effectivement, cette semaine, on m'a proposé de parler des punaises de lit. Parce que c'est vrai que c'est le sujet médiatique du moment. Hein. Et c'est parti un peu dans tous les sens. On va en reparler après, mais j'ai vu que Bernard Werber était devenu expert en sexualité des punaises de lit sur BFM TV. Je vous ai mis un court extrait, mais j'en pouvais plus. Je crois qu'on a la vidéo.
La punaise des lits a une sexualité torride parce qu'ils ont plus de 200 rapports sexuels par jour.
Par jour.
Alors qu'il y a peu d'humains qui arrivent à cette performance. Et deuxièmement, quantité de sperme lâché est gigantesque. Ça correspondra à plusieurs litres par rapport à notre taille humaine.
Voilà, donc merci Bernard, merci BFM.
On va en reparler de la sexualité.
Voilà, on va en reparler et tout, mais ça, en fait, ça me tue. Parce qu'il était très content de faire ces petites blagues, les humains. Voilà, bref. c'était drôle. Ah oui. Mais par contre, pas de king shaming hein, sur la sexualité des punaises de lit. On n'est pas là pour ça. Mais moi, quand j'ai vu ce sujet monter ces dernières semaines, j'ai pas été surpris en fait, parce que sans vouloir faire le hipster, moi, ça fait des années que les punaises de lit me font peur. Hein. Je dis ça, mais. J'avais peur des punaises de lit avant que ça soit cool d'avoir peur des punaises de lit. J'essaye pas de me placer au-dessus de la mêlée, mais voilà, factuellement, j'avais cette peur-là depuis longtemps. Voilà, moi, c'est vrai que je suis terrifié à l'idée de d'ouvrir mon lit et de trouver des punaises de lit ou Pascal Pro. Hein, mais ce que je veux dire, en fait, ça m'a quand même questionné, ce que je me suis dit, mais pourquoi on en parle maintenant, en fait ?
Ouais.
Pourquoi ? Donc c'est la question que je vais vous poser ce soir. Là, j'adore, parce que je peux faire les animations, ça prend grave du temps, j'adore. Attendez, voilà, hop là !
Applaudissements pour Vincent, elle est vachement bien faite.
Trop mignonne la punaise, je trouve. C'est fait avec Midjourney, voilà. Je pose la question parce qu'en soi, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau. En 2022, donc le syndicat des industries de désinsectisation a totalisé plus d'un million d'interventions professionnelles contre 200 000 en 2017. Donc c'est une hausse à peu près de 15 à 20% en 5 ans. Donc ça fait des années que c'est un problème. Et j'irai même plus loin en rappelant que les punaises de lit étaient là avant nous sur Terre. En 2019, il y avait une étude de Current Biology qui disait que les punaises de lit sont sur Terre depuis 115 millions d'années et qu'elles ont survécu à l'extinction des dinosaures. Donc les punaises sont costaudes, elles vont à la salle. Quoi. Elles prennent de la prot, elles prennent de la whey, elles suivent les tutos de Thibaut InShape. Et en fait, depuis, l'humanité n'a cessé de les côtoyer, parfois sans le savoir. Et dans la culture historique et populaire, on retrouve toujours ce petit nuisible dans les peintures rupestres, à la Renaissance ou même au cinéma, ça a été vraiment un sujet récurrent. Bon, non, j'arrête. Là encore, c'était Midjourney, voilà. j'ai fait, grâce à un copain qui s'appelle Valentin et que j'embrasse, j'ai fait des petits prompts comme ça, mais je trouve que les résultats sont quand même assez impressionnants, faut le dire. Mais en fait, cette petite tentative de blague visuelle me permet d'arriver au cœur du sujet et de l'une des explications sur pourquoi, selon moi, ça pop maintenant, c'est qu'en fait, les punaises de lit, avant de devenir des personnages médiatiques, en fait, je trouve que c'est un personnage qui était fait et qui est né pour les réseaux sociaux, en fait. Je m'explique. Il y a d'abord la figure hein, de la punaise, on appelle ça scientifiquement, c'est la Cimex lectularius, si je ne me trompe pas, voilà pour les intimes. Donc c'est un nuisible, c'est un être qui n'est pas très joli. J'ai remplacé les visuels pour ne pas trigger de gens dans le public ou sur le chat.
Vincent.
Mais en gros, voilà, c'est un nuisible. En plus, les conséquences sur la santé mentale des personnes qui peuvent avoir ça chez eux, c'est assez catastrophique. Et donc je trouve qu'en fait, de base, la punaise de lit, on a envie de s'en moquer parce qu'on a envie de se défouler dessus. Et je trouve qu'en plus, ça, c'est une bonne manière d'ironiser sur les pires aspects de la vie urbaine et d'alimenter une forme un peu de tendance un peu humoristique. Et moi, ça me rappelle pas mal à New York la figure en fait, du rat. À New York, en fait, c'est un vrai problème aussi là-bas. Il y a un parallèle, je trouve, qui est assez intéressant parce qu'en fait, le rat, c'est devenu un peu une star des réseaux sociaux aussi. Il y a même une sorte de tourisme. Il y a un TikToker qui filme les rats et qui invite les gens à faire un peu des chasses aux rats pour les filmer, pour le mettre sur les réseaux sociaux. Je pense aussi au fameux Pizza Rat. C'était un rat qui était devenu célèbre il y a quelques années parce qu'il a été filmé en train de s'échapper avec une part de pizza dans la bouche. On l'a remis, je pense que vous la connaissez, mais on a la vidéo juste pour... Oh là là.
Ouais, c'est un New Yorkais comme un autre, quoi.
Mais elle revient.
Ah, elle va chercher sa boue.
Elle attend parce qu'elle a un peu peur, elle voit qu'elle est filmée, mais elle va revenir, elle lâche pas l'affaire et tout. Voilà, donc en fait, le Pizza Rat, c'est devenu un peu un emblème aussi de la ville, etc. Et il y a même, j'ai vu, il y a quelques semaines à peine, il y a le maire de New York qui a nommé une tsar des rats, Kathleen Corradi, pour gérer le problème. C'est comme si dans quelques mois... Il y a un peu de bruit, je ne sais pas si...
Non, t'inquiète, t'inquiète.
Tout va bien. C'est comme si dans quelques mois, il y avait un préposé aux punaises de lit qui était nommé par Anne Hidalgo, quoi. Et je trouve que c'est assez... en fait, les possibilités sont assez folles. Et en fait, la punaise de lit, c'est un vrai problème de santé publique. Ça, et je trouve que ça pourrait devenir une figure un peu populaire dans la ville qu'on pourrait classer entre Ratatouille et les légendes urbaines du crocodile dans les égouts, etc. Ouais, je pense qu'il y a un truc symbolique qui peut se mettre en place. Et je trouve que aussi un autre point intéressant, c'est que la punaise de lit, c'est un être vivant qui, par définition, se propage. Elle se multiplie, elle se faufile, elle peut passer d'humain en humain et elle peut se transformer, muter, etc. Exactement comme les mèmes, en fait, sur Internet. De base, c'est fait pour se répandre. Au début, sur Twitter, c'était surtout une petite blague entre Parisiens sur certaines salles du MK2 dans le nord-est de Paris. Et puis, progressivement, cet été, un peu, tout a changé sur les réseaux parce qu'il y a les alertes qui se sont diversifiées. En gros, comme certains mèmes, les punaises de lit se sont un peu décentralisées, pour ceux qui ont la ref. Et on a vu, donc, en août, il y a eu d'abord un... Oula, attendez, je spoil, oh là là. En août, il y a eu d'abord un premier témoignage d'une certaine Nawal qui témoignait sur le UGC de Bercy Village. Puis ensuite, la punaise de lit voyage en classe éco, mais elle voyage. Donc on la voit, soi-disant, dans le TGV, etc. et tout. Donc ça commence à se répandre. Il y a eu un Lille-Flandre. La crainte commence à grandir parce qu'en plus, il y a des vidéos, des photos, des gens qui critiquent et qui disent « Ah oui, c'en est pas », etc. Donc ça crée aussi pas mal de discussions. Et après, c'est vraiment l'avalanche. Il y a un conducteur de la ligne 8 qui a dit qu'il en avait vu, même si ça a été démenti. Il y a eu des services d'urgence qui ont dû un peu fermer, des collèges, des classes, etc. Et peu importe, en fait, s'il y a des démentis, chaque signalement, et que chaque signalement n'est pas forcément véridique, c'est un peu trop tard parce que même si c'est difficile de mesurer vraiment... L'ampleur du phénomène, pour les réseaux sociaux, ce genre de propagation, on va dire, c'est vraiment du pain béni. Et moi, ça m'a rappelé une histoire, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était à l'été 2020, l'histoire des chevaux mutilés. Il y avait eu beaucoup de fake news autour de cette histoire-là. Et il y avait notamment quelques plaisantins qui avaient lancé la rumeur que c'était Nagui, le présentateur Nagui, qui était responsable de la mutilation des chevaux. Évidemment, c'était délirant et tout, mais c'est resté un des arcs narratifs du Twitter français que je trouve le plus marquant, en tout cas fascinant.
Ouais, c'est vrai.
Ça a été un vrai phénomène médiatique. Et en fait, je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu similaire avec ça, mais à la différence, et là encore, c'est le dernier point qui est très important, c'est que les punaises de lit, ça touche à un sujet sensible. C'est les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024 à Paris. Et donc, le voit avec la couverture médiatique mondiale. Évidemment, j'ai fait une petite sélection de différents médias, italiens, allemands, anglais, etc. Il y a un enjeu d'image, il y a un enjeu politique, économique, il y a un enjeu sanitaire, évidemment, qui se joue autour de cette petite bestiole. Et donc, parce que les punaises de lit permettent de créer des mèmes et des blagues sur le sujet très controversé des Jeux Olympiques, ça lui permet de gagner encore plus de puissance, je trouve, sur les réseaux. Ça en devient même un outil de bataille politique, vous allez en parler, mais on a vu Mathilde Panot qui brandit une fiole remplie de punaises à l'Assemblée nationale, au même moment où LFI, via certaines enquêtes diffusées à la télévision, subit un petit peu un certain contre-coup. On a aussi vu beaucoup de blagues sur Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, qui est souvent la cible de vannes sur les réseaux sociaux, il y a des blagues qui ont été faites. Il y a des politiques qui ont même dit la ville la plus touchée, c'est Paris. Qui est à la tête de Paris? C'est Madame Hidalgo. Voilà, c'est vraiment ce truc de profitons-en et tout. Et donc, en fait, vous l'avez compris, la punaise de lit, elle a vraiment, en plus d'envahir nos appartements, ça, on ne le sait pas vraiment, c'est difficile, encore une fois, à quantifier, je trouve qu'elle était vraiment faite pour envahir les réseaux sociaux. Il y a vraiment une contamination qui est assez intéressante. Et moi, pour conclure, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je sortais d'un rendez-vous et je traversais la Seine et je vois une espèce de pneumatique qui était en train de tourner des images pour un film. Et j'ai appris par la suite que le film en question, je vous jure, c'est pas des bobards, c'est un film Netflix qui va parler de l'attaque de requins pendant une épreuve de triathlon pendant les JO, enfin peut-être pas forcément les JO, ça sera peut-être pas brandé comme ça, mais c'est une attaque de requin pendant une épreuve de triathlon, c'est avec Bérénice Bejo, enfin j'ai hâte de voir ça. Et en fait là je me suis dit mais en fait je sais pas, parce que c'est toujours un peu en prod etc et tout, je me dis si les scénaristes de Netflix ils sont malins, en fait il remplace le requin par des punaises de lit et ça serait beaucoup plus réaliste et ça serait beaucoup plus flippant. Et enfin, voilà, je sais pas. Mais c'est juste une petite idée que je glisse comme ça avant de vous dire bonsoir et de vous remercier de m'avoir écouté. Voilà, passez une bonne soirée.
Merci beaucoup, Vincent, pour ce PowerPoint exceptionnel. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint extrêmement intéressant. Effectivement, les punaises de lit ont envahi nos réseaux sociaux, mais aussi nos appartements. On va en parler. Vincent l'a abordé rapidement dans sa chronique. Il a parlé de la sexualité des punaises de lit. Et Valentine, tu voulais nous en parler aussi.
Oh oui.
Vas-y.
Oh oui. Alors j'ai préparé une petite chronique. Elle s'appelle 5 minutes pour faire ban ta chaîne. On va voir.
Vas-y.
Alors si ça vous démange rien que de parler des punaises de lit. Parce que moi, j'étais pas bien là pendant tout la. Bref, attendez d'entendre sur la sexualité, hein. N'en déplaise à Bernard Werber, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Pour donner le ton, quand vous tapez reproduction des punaises de lit dans Google, enfin dans votre moteur de recherche préféré, tant que c'est pas celui qui plante des arbres là, vous tombez sur la page insémination traumatique. Voilà, ça donne le ton. D'ailleurs, toute ressemblance avec le comportement de certains youtubeurs serait purement fortuite. Donc, parlons des punaises et de leur aidéage. Alors, c'est pas un euphémisme. Tu regrettes hein, déjà.
Oh là, non, jusque-là, je suis. Ça roule.
Donc, aidéage, c'est le nom du petit robinet d'amour des insectes. Et d'ailleurs, sachez que chaque espèce a un aidéage bien particulier, un petit robinet bien particulier. On peut s'en servir pour identifier les espèces.
C'est la bite.
Tu me dis si je me trompe, hein. C'est tout bon, ok. Voilà, chacun son truc. Perso, si je me présente à la douane, je préfère juste montrer mon passeport. Mais chacun son truc après, hein, pas de king shaming. Donc, l'EDH de la punaise de lit. Revenons-en. Au microscope, c'est un genre de seringue ou de poignard. C'est vous qui voyez. Hein. C'est un peu comme les taches de Rorschach. Vous y voyez ce que vous voulez. Quand il est temps, donc, pour le mâle de disséminer ses gènes, il chope la femelle et il l'empale avec son dard d'amour. Voilà, il l'empale pour de vrai.
Genre vraiment, c'est...
Ouais, il l'empale. Wow. Genre... Voilà, sans les bruitages. Hein, voilà. Je ne sais pas comment on demande son consentement à une punaise, mais je ne crois pas que ce soit comme ça, en tout cas. Oh. Mais là où c'est encore mieux, enfin, pas le bon choix de mots, c'est qu'en fait, les insectes n'ont pas d'endosquelette comme nous. Vous savez, c'est mou, et au bout d'un moment, c'est dur. Chez les gens normaux, moi, c'est surtout beaucoup mou. en fait, chez les insectes, c'est un exosquelette. Donc, en fait, il y a une espèce d'armure rigide.
C'est mou à l'intérieur.
Et c'est mou à l'intérieur, voilà. Quand vous écrasez un insecte, ça fait crrr, alors que si vous écrasez un humain, ça fait crrr. Voilà, c'est moyen mnémotechnique d'un les profs.
Oui. je l'ai.
C'est pas de moi. donc, je sais même plus où j'en étais avec cette histoire. Voilà, donc le mâle doit insérer son glaive dans le corps de la femelle en transperçant son squelette. Oh. Imaginez la violence du truc. Mmh. Ouais, ensuite, il va lui injecter le principe actif directement dans le corps avec sa seringue et lui délivre le passe sanitaire en passant. oui, donc il s'en fout en fait de repérer les voies génitales de la femelle. Juste, il lui transperce le bide et elle se démerde. Donc voilà, c'est une autre façon de faire. Après ça, les petits soldats du mâle vont voyager dans le sang de la femelle. On ne dit pas sang en vrai, on dit hémolymphe, je me permets de... Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Là, ils vont faire un petit tour gratuit du nomen. Donc, sur votre gauche, voici l'œil, sur votre droite, c'est le prothorax. Devant vous, les ovaires, terminus, tout le monde descend. Et à ce moment-là, le sperme va descendre et il va féconder l'ovule. Ou alors, il va être mis de côté par la femelle dans une poche spéciale qu'on appelle la spermathèque. Et la femelle va pouvoir s'en servir à loisir après si on en a besoin, un peu comme la fameuse bouteille, voilà, un peu comme la fameuse bouteille de ketchup qu'on garde au fond du frigo. Et là vous vous dites le calvaire est fini. Eh bien non, pas du tout, parce que n'en déplaise à Christine Boutin, les insectes c'est plutôt 400 papas une maman.
non.
voilà. Et bon, en l'occurrence pour les punaises, tu regrettes maintenant. Pour les punaises, c'est plutôt 5 papas et une maman, mais je suis un peu marseillaise d'adoption, donc faut pas me croire quand je dis des chiffres. Voilà, donc non seulement le vaccin lui-même est un peu traumatique, mais en plus vous payez 400 millions de rappels directement après, Macron destitution. voilà. Après tous les accouplements qu'elles subissent, du coup les femelles elles sont un peu mal en point, voilà, elles peuvent perdre du sang, les plaies peuvent s'infecter parfois, parce qu'il y a plein de bactéries un peu sur toutes ces choses d'amour. Elles peuvent même en mourir, donc en gros leur espérance de vie diminue drastiquement. Et pour limiter la casse, elles ont développé quand même la joie de la coévolution, c'est qu'elles ont développé un genre de cible molle sur l'abdomen, qu'on appelle un spermaledge en anglais, je sais pas comment on dit en français. Un organe pour dire au mâle, visez là, plutôt là, ça fera moins mal, là. Voilà, avec plus ou moins de succès évidemment, parce que les hommes. la question pour finir, c'est pourquoi l'évolution, pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'est que pas le temps, en fait. On n'a pas le time, on veut gagner le temps, donc on économise un « bonjour, comment tu t'appelles ?» On économise un resto. Ça laisse plus de temps pour pouvoir créer de la valeur, comme ça, pour miner du bitcoin, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez avec votre temps. On a commencé, du coup, en parlant d'EDH. Alors, j'aimerais finir de la même manière. pas comme les femelles punaises, juste la chronique de la même manière. Il y a même des récepteurs, figurez-vous, des chimio-récepteurs sur le pénis de la punaise de lit qui lui permettent de goûter la femelle. Donc quand il est en place, il peut savoir si quelqu'un est déjà passé avant ou pas, en fait. Voilà, comme ça, il sait s'il est plutôt Première Nation ou alors juste Christophe Colomb, quoi. Et comme ça, il va adapter la quantité de poussière d'étoile qu'il va injecter à la femelle derrière. Et c'est beau. En tout cas, si vous étiez dégoûté jusqu'à maintenant d'avoir des punaises de lit chez vous, dites-vous que maintenant, vous savez ce qu'elles font sous vous et peut-être même dans vos interstices pendant que vous dormez. Merci.
Merci, Valentine. merci beaucoup, Valentine. On a appris beaucoup de choses. Plus que ce qu'on aurait probablement voulu savoir, mais c'est ça qui est beau. Avec la connaissance, finalement, il n'y en a jamais assez. Merci beaucoup. Léna, toi, tu as fait plusieurs vidéos sur ta chaîne pour parler avec ton public de ce sujet, le sujet des punaises de lit. On regarde une vidéo, on en parle tout de suite.
Bradley Cooper a déjà eu des punaises de lit. Mais plus étonnant, Cléopâtre aussi. Et oui, elles existent depuis très longtemps, ces petites bêtes. En fait, à la base, on pense que c'était des parasites, des chauves-souris qui vivaient dans des grottes et qu'elles ont petit à petit évolué jusqu'à devenir des parasites des humains.
Oui, ça me gratte.
Et d'ailleurs, les premières traces écrites qu'on a des punaises de lit, elles datent de 4000 ans quand même, hein. Donc ça commence à faire un bail. Oh, et d'ailleurs, on peut lire des petites pépites quand on regarde les traitements anti-punaises de l'époque.
Moi, Démocrite, je préconise de mettre des pieds de lapin au pied du lit.
Oui, pour le coup, ça n'aura aucune conséquence, sauf pour les petits lapins.
Sinon, on propose de pulvériser du cyanure dans la pièce.
Ah bah ça, pour le coup, ça devrait marcher sur les punaises de lit, mais aussi sur les humains. Bon, les plus aisés, ils avaient vite compris la combine, on jartait toute la pièce et on rachetait le maximum. Mais ça coûtait cher tout ça, hein.
Voilà, c'est un extrait d'une vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne Scarabette, que je vous invite à découvrir si c'est pas encore fait. Léna, est-ce que la punaise de lit, c'est un insecte comme les autres?
Alors, comme les autres, il ressemble à beaucoup d'autres insectes, mais il est assez particulier parce que c'est un insecte parasite. C'est-à-dire qu'il va vivre aux dépens d'un hôte. Et là, l'hôte, en l'occurrence, c'est nous, le
probable
des punaises de lit. Donc, il aime vraiment particulièrement notre sang. C'est vraiment nous qui va venir parasiter. Et du coup, c'est ce qui en fait quand même un insecte assez spécial. Voilà.
on précise qu'il y a eu 1 million d'interventions contre les punaises de lit en 2022. C'est une augmentation de 200 000 en un an. Donc on est. Alors je ne sais pas si on est face à un phénomène en nombre de punaises de lit. Est-ce qu'il y a véritablement une explosion ou est-ce que c'est que les gens sont plus alertes? C'est que parce qu'on en parle, bah, les gens ils regardent, enfin ils en trouvent et que du coup ils appellent à faire des interventions. Je ne saurais pas dire. Mais est-ce qu'il y a un caractère phénoménal? Parce que dans ta vidéo tu dis que ça fait 4000 ans que ça existe. Ça devrait pas être un sujet particulièrement nouveau.
Alors en fait, faut savoir que Les punaises de lit, ça fait depuis 2017 qu'on a vraiment une augmentation chaque année qui est un peu significative.
Ok.
Y avait déjà eu en 2021 pas mal d'articles sur les punaises de lit, notamment au CROUS, avec les étudiants qui se retrouvaient avec des chambres infestées de punaises de lit et certains CROUS qui ne voulaient rien faire pour arrêter les invasions. Donc, il faut savoir effectivement qu'il y a une augmentation chaque année depuis 2017 fait l'objet de plusieurs alertes de la part de divers organismes. En revanche, en 2023, il n'y a pas d'un coup un énorme boom de punaises de lit. Si vous n'aviez pas peur il y a un an, vous avez à peine plus, vous auriez de raison d'avoir à peine plus de peur là cette année.
Y en a qui lient ça au réchauffement climatique en disant que les insectes, en gros, elle a moins de prédateurs qu'avant parce qu'on sait que la biodiversité est touchée très directement par les changements climatiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as une info là-dessus ou pas?
Oui, alors la punaise de lit, elle n'a pas vraiment de prédateur principal à part nous.
Okay.
Parce que le truc, c'est que elle a évolué pour nous parasiter, nous humains, et elle est très peu intéressée par tout ce qui est autres animaux. Alors elle peut de temps en temps aller paralyser les animaux domestiques parce que du coup ils sont dans la pièce et du coup ça va être aussi des cibles qu'ils vont pouvoir cibler quand par exemple ils n'ont pas d'autres humains à porter. Par contre c'est très rare et c'est devenu des insectes qui vont aller dans des chambres et nous on ne laisse plus les animaux aller dans nos maisons. Donc on n'a plus de petits rongeurs qui pourraient éventuellement s'en nourrir. On n'a plus d'araignées qui pourraient venir combattre les punaises de lit.
Oui, on fait la chasse aux toiles d'araignée, voilà. On fait la chasse aux moustiques, on fait la chasse aux souris, aux rats. Et
exactement,
donc,
c'est plutôt un insecte qui est assez particulier dans ce domaine-là, c'est qu'il n'a pas forcément vraiment de prédateurs qui vont pouvoir venir avoir un impact sur les punaises de lit.
Tu disais tout à l'heure que la plupart des insectes, ils sont à la base de la chaîne alimentaire. La punaise de lit, elle sert à quoi?
C'est compliqué. C'est une question qui est compliquée. C'est un insecte parasite. Souvent, les parasites, ouais, ils sont là, du coup, pour réguler les populations. Pour le coup, on n'a pas de... Il n'y a aucune preuve qui dit que les punaises de lit sont porteurs de maladies. Donc, okay, ils sont là pour se nourrir. Ils ont une place dans l'écosystème parce qu'ils ont réussi à avoir cette petite place-là. Ils ont réussi à avoir cette petite niche. Après, tout animal qui disparaît se fait remplacer dans la biodiversité. Mais là, bon, on ne va pas dire qu'il va y avoir un énorme trou si la punaise de lit disparaît. En revanche, il faut s'enlever de la tête qu'on peut éradiquer les punaises de lit. Maintenant, ce n'est même plus imaginable.
D'accord. Est-ce que l'on sait ce qui explique cette augmentation? J'ai vu la question posée dans le chat depuis 2017. Est-ce qu'on connaît les facteurs qui permettent d'expliquer ce retour des punaises de lit?
Oui.
Est-ce que c'est qu'en France? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est dans tous les pays développés? Enfin, tu vois, je ne sais pas.
Alors, c'est partout dans le monde. Okay. Les réchauffements climatiques, effectivement, c'est une raison qu'on voit beaucoup amener sur le débat public. Mais en fait, c'est plus généralement la chaleur qui fait que le cycle de la vie de la punaise de lit est réduite. Donc, okay, plus il fait chaud, plus les œufs vont éclore vite, plus les adultes vont muer rapidement et du coup vont pouvoir se reproduire rapidement.
D'accord.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que le réchauffement climatique a un impact. Et effectivement, quand il fait chaud, là, on a un mois d'octobre qui est particulièrement clément. On va voir que la reproduction et les interventions pour agir sur les punaises de lit vont encore continuer pendant, je pense, jusqu'à novembre, voire même, si on continue comme ça, peut-être début décembre. Et ça, c'est problématique parce qu'il y a plus de place à avoir une grosse invasion de punaises de lit, en fait.
D'accord, ok. Est-ce que l'hiver sera bénéfique? La question est posée dans le chat.
Alors, l'hiver dans nos contrées fait que la punaise se met en dormance et donc arrête de venir se nourrir et arrête du coup de se reproduire et du coup l'invasion va se réduire. Par contre, elle se met en dormance et dès qu'il va refaire beau, elle va recommencer. Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter très rapidement quand on a des punaises de lit.
Même quand on chauffe chez nous?
Du coup, ça va dépendre de comment est-ce, ouais, qu'on chauffe. Par exemple, moi, je suis sous les toits. Je descends rarement en dessous de 18 degrés. Mmh. C'est largement suffisant pour que les punaises, ouais, de lit, elles continuent. Il y a des logements où on chauffe plus ou moins. Et du coup, si vous, ouais, chauffez, okay, à 20 chez vous, effectivement, elles ne vont pas se mettre en dormance.
Il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on sait qu'on a des punaises de lit chez nous. Est-ce qu'il n'y a que les piqûres, les démangeaisons qui nous permettent d'identifier le fait qu'on a un problème ou est-ce que... Est-ce qu'on peut simplement les chercher?
Oui, alors il y a plusieurs signes. La première, c'est les piqûres. Sachant que c'est assez difficile quand même de différencier les piqûres de punaises de lit de piqûres, par exemple, de moustiques.
Ben ouais.
C'est un peu compliqué. On peut avoir des petits signes. Les dermatologues, souvent, réussissent à un peu plus essayer d'épingler telle ou telle piqûre. Donc, on a les piqûres. Elles grattent très fort, généralement.
Ouais.
Sachant que chacun a des sensibilités particulières. Mais ensuite, la deuxième chose à vérifier, c'est son matelas et notamment son drap. Mmh. Si on voit des petites traces de sang, c'est assez spécifique des punaises de lit parce que du coup, le moustique ne va pas laisser une trace de sang quand il pique. Tandis que la punaise de lit, oui, en général, va laisser une petite trace. Ensuite, c'est de soulever le drap, de changer les draps complètement. Et on va essayer de trouver des œufs, on va essayer de trouver des excréments. Les excréments, c'est tout noir et ça ressemble un petit peu à de la moisissure. C'est assez... assez spécifique. Et voilà, ça, c'est les principaux signes à regarder pour vérifier si on a des punaises de lit chez soi.
Qu'est-ce qu'on fait si on découvre qu'on a des punaises de lit? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qu'on doit faire, mettre en place?
Alors, on ne panique pas, déjà.
Okay.
Vraiment, il faut enlever... en comprenant comment fonctionne la punaise de lit et surtout comment ça fonctionne une invasion de punaises de lit, il faut qu'on arrive à calmer déjà, parce que le problème des punaises de lit, on l'a dit, ça ne transmet pas de maladie. Par contre, ça peut amener plutôt de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, de l'isolement social. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est plutôt ça qui va poser problème. Donc, on ne panique pas. On met tout son linge de lit à la machine à laver. On va le mettre à une température le plus haut possible. Donc au-dessus de 60 degrés, c'est très bien. On évite les cycles de lavage trop courts. Donc on va plutôt privilégier les cycles de lavage coton, lin, ce que vous voulez. Ensuite, on va essayer de trouver un balai vapeur. Ça, c'est super. Parce que les insecticides qu'on trouve dans les commerces ne marchent plus. Donc, c'est même plus la peine.
Ouais, mais les punaises sont devenues résistantes, c'est ça.
Ça coûte très cher et c'est complètement inutile. Donc, vraiment, on n'utilise pas. En plus, c'est souvent pas bon pour votre santé. Donc, en plus, encore raison de plus de ne pas l'utiliser.
Okay.
Donc, on va plutôt aller chercher vers la vapeur. Et là, la vapeur chaude qui peut monter à 120 degrés, on va passer doucement sur chaque recoin de son lit et tout ce qui est... table de chevet, le sol, les petits recoins.
C'est les trucs qu'on fait jamais là.
C'est ça.
Voilà, bah c'est l'occasion, on y va, voilà.
Exactement. Non, mais... et on va faire ça pendant une semaine. Si on continue à avoir des signes et qu'on voit maintenant les individus, parce que quand vous voyez plusieurs individus, c'est que là, vous avez quand même une invasion qui commence à être conséquente. Là, vous pouvez vous référer à des professionnels, sachant que ça a un prix, ça a un coût, il faut le savoir. Mais que, voilà, c'est environ 800 euros par intervention, donc ça peut monter.
Ouais.
Et il faut essayer de voir si vous êtes locataire, ça c'est super important à préciser, c'est à votre propriétaire, normalement, de prendre en charge les punaises de lit.
Bon à savoir ça.
Ouais.
Ok, d'accord. Un tonnerre d'applaudissements pour Léna, mesdames et messieurs, pour ces super conseils. Merci beaucoup, Léna, vraiment, pour ça.
Je pense qu'il y a un petit truc à préciser que j'ai vraiment envie de mettre l'accent. C'est que ce n'est pas une question d'hygiène, les punaises de lit. Il n'y a rien qui dit que les personnes qui ne changent pas souvent leurs draps, qui ne se lavent pas, qui ont des problèmes d'hygiène, ont plus de problèmes de lit. C'est vraiment quelque chose qui peut
toucher tout le monde. Vous n'y pouvez rien, vous n'y êtes pour rien.
Ça, okay, vous n'y êtes pour rien. Vous avez très peu de chances de ramener des punaises de lit si vous prenez les précautions sur votre lieu de travail, dans les transports que vous prenez. Il n'y a pas à culpabiliser d'avoir des punaises de lit et il n'y a pas à culpabiliser de demander de l'aide pour les invasions de punaises de lit. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Même Bradley Cooper en a eu.
Ouais, donc c'est bon. Ouais, c'est, oui. Non, mais
donc si Bradley Cooper en a eu, ne vous mettez pas en isolement. Et surtout, demandez de l'aide, et notamment à des professionnels de la psychologie, parce que ne restez pas avec des problèmes comme ça. On voit que les gens qui ont eu des punaises de lit, il y a un gros pourcentage qui vont après consulter pour des problèmes d'anxiété, de stress et d'insomnie. Et ça, on ne veut pas.
Et je précise que le gouvernement déclenche demain un conseil interministériel sur le sujet. Des annonces sont peut-être attendues dans la foulée, donc on verra si les pouvoirs publics mettront quelque chose de spécifique en place. Chers amis, Valentine, Léna, grande particularité cette année dans l'émission Backseat, on voulait inviter à nouveau des créatrices de contenu, et je suis super content de vous accueillir parce que c'était vraiment génial cette partie, mais ça va être encore mieux puisqu'on vous a proposé de mettre en avant quelque chose qui vous intéresse, une cause, une association, un truc comme ça. Et Léna, quand on t'a proposé, tu nous as dit « Ouais, moi je voudrais parler de science participative ». Chers amis, j'ai le plaisir de vous demander d'accueillir sur ce plateau Manon Gislin, qui est docteur en écologie au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonsoir Manon, ça se prononce Guilin, je suis absolument désolé.
C'est pas grave, tout le monde fait l'erreur.
Merci Manon, tu es donc, je le disais, docteur en écologie au Muséum d'Histoire Naturelle. Tu t'es intéressée aux sciences participatives.
Oui,
tu peux nous dire ce que c'est déjà ?
Alors, l'idée des sciences participatives, c'est de remettre les citoyens au cœur des programmes de recherche.
Okay.
Donc, tout le monde peut participer pour servir à des questions scientifiques, pour que les chercheurs puissent répondre à des questions scientifiques qu'ils se posent. Donc, l'idée, c'est de, à la fois, sensibiliser le grand public à des questions scientifiques sur la biodiversité, il y en a aussi sur la géologie, d'ailleurs, sur plein de questions différentes, tout en permettant de fournir énormément de données à des scientifiques à moindre coût, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans la recherche, et donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup de données à grande échelle pour répondre à des questions.
C'est ce que j'allais te demander, parce que j'allais te demander à quoi ça sert pour un chercheur, une chercheuse, d'avoir plein de gens qui viennent l'emmerder. Il est tranquille dans son labo, il connaît son truc, et en fait non, au contraire, il y a des chercheurs qui en ont même besoin.
Oui, par exemple, on a un programme qui s'appelle Oiseaux des Jardins, où les particuliers ont juste à compter les oiseaux qu'ils voient dans leur jardin, et depuis sa création, il y a 10 ans, il y a plus de 100 000 jardins qui ont participé, donc plus de 100 000 jardins où il y a eu des comptages, ce qui est impossible à faire pour un scientifique tout seul.
J'avais fait une émission avec la Surfrider Foundation qui met des bracelets aux pieds des surfeurs, des nageurs, des plongeurs pour avoir des datas sur la qualité de l'eau. Et du coup, ils ont un mappage incroyable de la qualité de l'eau qu'ils peuvent monitorer quotidiennement parce que juste des gens vont dans l'eau, donc tant qu'à faire, filer un coup de main aux scientifiques. Je viens d'y penser, mais ça fait partie de ces exemples-là.
Oui, oui, il y a aussi des exemples sur la qualité de l'air où on fait fabriquer aux gens des petits kits qu'ils peuvent mettre à leurs fenêtres pour mesurer la qualité de l'air chez eux.
Alors j'allais te demander, ça veut dire que nous tous, là, nous tous, les gens qui nous regardent, on peut aider des scientifiques.
Oui, tout le monde peut participer, on n'a pas besoin d'un niveau particulier. Il y a plein de programmes qui sont ouverts aux débutants. Après, il y a des programmes qui demandent plus de qualifications, mais ce qui est bien, c'est que quand on commence à s'intéresser, on se forme sur le tas.
Il y a des formations,
oui. Et oui, il y a aussi des formations. Et si je reprends l'exemple d'Oiseaux des Jardins, en fait, c'est pas très compliqué d'identifier les oiseaux et de les reconnaître. Une fois qu'on a un référentiel des espèces les plus communes, c'est très facile, en fait.
Je suis infoutu de différencier d'Opiaf. Maintenant que tu poses la question, je me rends compte que j'aurais peut-être besoin de cette formation. Non, mais en vrai, ouais, non, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a intéressé, toi, au départ, dans la science participative ?
Alors moi, je travaille sur la surveillance de la biodiversité,
okay.
Et donc sur l'état des populations animales, végétales, etc. Et c'est très compliqué d'avoir des données, notamment dans les Outre-mer. Moi, je travaille surtout sur les Outre-mer, où en fait, il n'y a pas forcément autant de scientifiques, etc. Et on a très peu de données sur ces territoires. Et y a aussi une question de décolonisation un peu de la nature, etc. C'est que c'est pas à nous, Parisiens, du muséum, d'aller dans les territoires leur dire « vous devez faire ça, ça, ça ». Et donc, c'est vrai que les sciences participatives, c'est quelque chose qu'on met très en avant pour former les gens, même dès l'école, pour qu'ils s'intéressent vraiment à la nature et qu'ils prennent les choses en main.
Vous aussi, en tant que, on le parlait tout à l'heure, en tant que créatrice de contenu, le rapport à la communauté, c'est un truc que vous encouragez les gens de faire. Toi, tu me fais un grand oui de la tête, Léna. Oui, on parle de surveillance de la biodiversité, les insectes, ça a du sens.
Complètement. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de montrer l'application dont tu vas parler après et des sciences participatives à mes abonnés. Et on a fait une espèce de petite course à celui qui allait identifier le plus d'espèces. Et du coup, c'était assez sympa parce qu'en plus, c'est vachement communautaire. On peut échanger là-dessus. Et je vois qu'en fait, il y a un engouement. Si les gens peuvent aider, en vrai, il y en a plein qui sont hyper partants, quoi. Et ouais. Il suffit juste de leur donner les moyens. Et souvent, j'ai plein de gens qui me disent « Ah, trop bien, j'ai commencé à faire les insectes. » Et puis, je me suis rendu compte que je connaissais vachement plus les oiseaux, donc j'ai fait les oiseaux. J'ai vu que c'était trop bien, j'avais plein de plantes chez moi, donc j'ai aussi fait les plantes. Et au final, c'est génial.
Non, mais c'est trop cool. Et toi, Valentine, les cailloux?
Ouais, tu rigoles, mais il y a effectivement un programme de sciences participatives autour des cailloux qui s'appelle Vigitaire, fait par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et j'ai bossé avec eux, et effectivement, le but, c'est tu te balades et tu vois un affleurement, donc des roches qui affleurent. Et tu peux les signaler dans leur carte en disant « oui, ça, c'est telle roche, je pense. » Et ça aide effectivement les scientifiques qui s'en servent après pour cartographier le patrimoine géologique.
Alors parmi tous ces programmes dont tu as parlé, il y en a un qui a retenu notre attention qui s'appelle l'INPN Espèces. Et c'est une sorte de Pokémon Go de la biodiversité.
C'est ça, c'est comme un Pokémon Go. Le but, c'est de voir le plus d'espèces possible. Et surtout de les voir dans des endroits où elles n'ont pas encore été répertoriées dans nos bases de données. Donc, par exemple, je me promène, je vois un oiseau, un insecte, n'importe quoi. Je vais le prendre en photo, le mettre sur l'application, essayer de l'identifier dans la mesure du possible. Alors, pour les oiseaux, ça peut être assez simple. Pour les insectes, ça peut être vite plus compliqué. Donc, on peut essayer de se renseigner sur Internet, etc. Si on ne sait pas, ce n'est pas grave. On peut juste dire c'est un insecte. Et après, en fait, il y a des experts qui vont valider l'observation, identifier au mieux si ça n'a pas été fait. Donc moi, par exemple, je valide les oiseaux. On en a, une centaine d'observations par jour. Donc on doit valider que c'est bien la bonne espèce qui est identifiée.
Au moins une fois par jour, tu regardes des photos d'oiseaux et tu les identifies.
C'est mon petit rituel du matin en buvant mon café.
Non, mais c'est trop bien.
Surtout qu'à Paris, on n'en voit pas beaucoup. Donc ça fait un peu voyager en France tous les matins.
C'est Professeur Chêne des oiseaux, en fait.
C'est ça, Professeur Chêne des oiseaux. Tu l'as avec toi, l'application? Parce que c'est une appli dont on vous parle. Tu nous en fais une démo?
Oui, alors je ne sais pas si ça marche.
Normalement, c'est branché à l'écran, normalement. D'accord. C'est incroyable, on est au top de la techno. Voilà, regardez, ça apparaît, c'est fou. Vas-y, montre-nous cette appli, à quoi elle ressemble.
Alors, donc, on a un accueil avec une présentation un peu de mes dernières observations. On peut découvrir, il faut choisir une ville, on ne l'a pas fait, mais on peut découvrir un peu les animaux, les plantes qu'on a autour de chez nous. Et donc, par exemple, si je veux poster une nouvelle observation, je vais sur « Nouvelle observation », je vais dans mes photos sur mon téléphone. Et donc, par exemple, si j'ai vu une pie là en venant tout à l'heure que j'ai pris en photo, je l'ajoute. Donc, j'ajoute une date, donc, et la date et l'heure. Bon, on met au hasard, c'est pas très grave là. Et on met l'endroit où on l'a prise. Alors, soit on peut localiser exactement. Là,
avec le GPS de son téléphone, ou alors on l'indique.
Là, je vais mettre Paris. Voilà. Ensuite, on peut dire le groupe simple dans lequel auquel il appartient. Bon, là, c'est facile, c'est un oiseau.
Oui.
Oh, j'ai mis
plante. Ça jusque-là, je l'avais. Jusque-là, c'est ouais.
Alors, le groupe taxonomique, donc la pie, ça fait partie des passereaux, ça s'appelle.
Ça, je l'avais pas.
C'est dans la même famille que. C'est pas très intuitif que les mésanges, les moineaux, etc. Et ensuite, on met le nom d'espèce. Alors, soit on peut mettre le nom commun, soit on peut mettre le nom latin, si on le connaît. Alors, la pie, c'est assez rigolo. Son nom latin, c'est Pika Pika. Donc, la petite référence à Pokémon Go encore. Voilà, la pie bavarde. Okay. Et ensuite, on a juste à envoyer l'observation. Et ce sera validé par des experts ensuite.
Et alors là, jusque-là, vous pouvez vous dire, bon, d'accord, super, je prends des photos de piaf et je les identifie. Mais en fait, non, il y a des quêtes.
Oui, il y a
l'application vous donne des quêtes, les gamers.
Alors, il y a des, par exemple, des gestionnaires d'espaces naturels ou même des villes qui veulent avoir des informations sur des espèces. Ils ne savent pas si, par exemple, le hérisson est présent dans telle ou telle ville. Donc, si tu es sur les quêtes, par exemple, là, à Mayotte, ils ont lancé une quête récemment sur les reptiles. Il y a aussi, là, pour l'automne, il y a une quête sur les champignons où on nous demande de trouver des espèces en particulier. Et donc, si on trouve ces espèces en particulier, on a des points en plus.
Oh, trop bien.
Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dès qu'on poste une observation, on a des points si on identifie l'espèce correctement. Et si c'est une espèce qui n'a jamais été vue dans la ville ou dans le département, on a encore plus de points bonus.
Pour les gens qui posent la question dans le chat depuis tout à l'heure, l'application s'appelle INPN Espèce. Elle est disponible sur l'App Store sur vos iPhones, elle est disponible sur le Google Play Store pour vos Android. Installez-la, c'est trop trop cool. Alors vous, du coup, les scientifiques, une fois que vous avez ça, comment vous travaillez avec? Comment vous fonctionnez?
Alors en fait, beaucoup, on est aussi validateur, donc on voit déjà passer des observations intéressantes en validant. Mais également, alors par exemple, là, il y a des particuliers qui ont trouvé des espèces de coléoptères qui n'avaient jamais été vues dans l'Est de la France. Ces deux espèces, on ne savait pas qu'elles étaient là-bas, etc. Donc déjà, c'est super intéressant pour la distribution des espèces. Aussi pour suivre les espèces envahissantes, par exemple le frelon asiatique ou la perruche à collier qu'on voit partout dans Paris. C'est super intéressant parce qu'on a plein de données, en fait, gratuitement, plein de données qui arrivent et donc qui permettent de connaître mieux la distribution de ces espèces.
Vous avez eu depuis janvier dernier 300 000 observations et 24 000 contributeurs. L'application a été lancée en 2018 et il y a 300 experts validateurs comme toi qui valident. Et il y a plus de 18 000 espèces recensées, c'est énorme.
Oui, mais...
Ou pas suffisant, alors... parce que je t'ai vu, mais...
En fait, il y a des espèces, par exemple, les oiseaux dans l'Hexagone. On connaît leur distribution, c'est super intéressant, mais ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles informations. Par contre, dans les Outre-mer, en Guyane par exemple, les oiseaux, il y en a plein, il y a plein d'espèces, on n'a pas d'informations. Et donc là, c'est super important, même sur les plantes, même sur les insectes, c'est super important d'avoir des informations parce que la base pour protéger une espèce, c'est de savoir où est-ce qu'elle habite, où est-ce qu'elle vit et... Et voilà, quoi. Si on n'a pas un minimum de connaissances, on ne peut pas les protéger.
Quelqu'un qui pose la question de savoir est-ce que ça marche à l'étranger ou est-ce que c'est qu'en France?
Alors, c'est qu'en France. Okay. À l'étranger, il y a iNaturalist, ça s'appelle.
Eh bien, voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a mis, incroyable. Merci, vous êtes formidable. Non, mais c'est vraiment une application super, super intéressante et ça permet de rendre un service très direct aux scientifiques. Ça permet aussi, je suppose, de découvrir aussi des insectes, des oiseaux. Enfin, juste si tu as l'appli, tu fais plus attention aux piaf que tu croises.
Oui, complètement. Et en plus, on peut la combiner, si on n'est pas très à l'aise, on peut la combiner avec des applications d'IA pour reconnaître les oiseaux, les insectes, les plantes. Et du coup, si on n'est pas forcément très assuré sur nos découvertes, eh ben, on met la photo d'abord dans une application d'IA qui nous donne une espèce. Et là, on peut la faire valider par des experts qui vont du coup, de toute façon, vérifier très précisément quelle est l'espèce et du coup, valider après par la suite. Donc c'est super, on peut combiner les deux.
Est-ce que la base de données des résultats est ouverte?
Oui, alors c'est pour ça que j'encourage plutôt à mettre un pseudo si vous partagez vos observations, parce qu'en fait tout le monde
c'est
peut
l'open
voir
data, donc,
qui a été vu et où. Donc c'est super intéressant. Moi des fois je me dis, mince, est-ce que telle espèce elle est là? J'ai pas besoin de demander une extraction de données compliquée. Je vais sur le site, je tape l'espèce, le lieu, j'ai l'information. Mais voilà, niveau information personnelle, mettez un pseudo.
Si t'as pas dit à ton mec que t'en es en voir un autre et que tu croises un piaf, voilà, mets pas ton nom au moment où tu prends la photo, ça fait gênant. Enfin bref, voilà, on a compris. Impressionnant. Manon, où est-ce qu'on te retrouve? Le Muséum National d'Histoire Naturelle.
C'est ça.
Ça se visite.
C'est ça, venez le visiter.
Merci beaucoup. Manon, l'application INPN Espèce, gratuit, à télécharger sur vos téléphones. Léna, où est-ce qu'on te retrouve ta chaîne?
Sur YouTube, Instagram et TikTok. Et Manon aussi fait des vidéos sur Instagram, elle l'a
un
pas
petit
dit.
Peu.
Mais elles sont super intéressantes, même s'il en a pas beaucoup, voilà, je lui dis.
Eh bah, bien, tu l'as pas dit. Donc Manon, c'est quoi ton Insta?
C'est Manon Forsteri. C'est pas du tout.
Ça s'écrit comment, Forsteri?
Forsteri. C'est le nom latin du manchot empereur.
Let's go! Manon Forsteri, donc on te retrouve sur Insta. Eh ben écoute, c'est super. Donc toi, Scarbet, on l'a dit, c'est sur les réseaux sociaux qui vont bien. Valentine, on te retrouve où?
Science de comptoir. Non, c'est pas ça la question. Sur ben YouTube. Si.
YouTube, Science de comptoir.
Ouais, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch.
Ouais.
Voilà.
Et l'émission d'Artescope.
L'émission d'Artescope, réalisée par notre Nicolas National qui réalise cette émission.
Nicolas qui réalise Backseat, qui réalise également l'émission Scope. Merci beaucoup à toutes les trois, un tonnerre d'applaudissements. Merci. Chers amis, on va se mettre un générique et on va enchaîner avec le début de notre émission Backseat. À tout de suite.